Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. En ce mercredi 17 avril 2024, on est ensemble. C'est votre quotidien sportif qui n'est autre que Time Sport. 20h pétante, on va parler de quoi en ce mercredi soir? Eh oui, soir d'Europe justement. On est joyeux, heureux et on arbore de magnifiques maillots, suites aussi. Avec le gros équissant du club de la capitale française qui n'est autre que le Paris Saint-Germain, un club si jeune, tout frais, dynamique, 1970. On se rappelle aussi d'un certain monsieur Daniel Echter. Au menu de cette émission, Paris tout droit en finale, point d'interrogation, c'est la question que l'on se pose. Mbappé, il était bien présent justement du côté de Barcelone, et oui, dans cette fameuse cité catalane. Et on va revenir aussi sur le match de ce soir, phare, City-Real Madrid, the match, sans oublier aussi les Gunners d'Arsenal qui se déplaceront du côté de l'Allianz Arena à Munich. Et oui, pour affronter Nagelsmann et aussi ses hommes. Le 0153483000, rien de plus simple pour réagir avec toute l'équipe de cette émission. Ce Paris Saint-Germain peut-il le faire selon vous? C'est la question que l'on vous a posée sur les réseaux sociaux et aussi que l'on se pose ce soir avec l'équipe de Time Sport. Allez, on le rappelle, c'est le numéro du standard, le 0153483000. On va présenter la fine équipe qui m'accompagne ce soir. C'est parti, go go Time Sport.
Time Sport. Les pourparlers.
En cette fin d'émission, on aura notre coach mental Aurélien Duarte qui se fera un plaisir de vous donner sa réplique. Et oui, comme chaque mercredi soir. Ce soir, on est en compagnie de Karim. Et oui, Karim. Bonsoir, Karim. Comment ça va?
Bonsoir, Bilal. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. On est très, très content.
Ah ben nous voilà. Aussi, Karim.
J'espère que les auditeurs et les auditrices de Beurre FM ont apprécié la soirée d'hier.
Ouais.
En tout cas, c'était une grande soirée hier. Hein.
Une grande soirée, wow. Et aussi de grandes prestations de la part de Karim, parce qu'il y a pas mal d'auditrices, d'auditeurs qui me demandent après Karim.
Auditrices et auditeurs. Je pencherai plus pour les auditrices.
Ok, il n'y a pas de problème.
Mais les auditeurs aussi. Hein.
Voilà, donc, en tout cas, on aime beaucoup Karim. Ouais. Yacine est avec nous. Bonsoir, Yacine.
Et tu es sûr que c'est le même Karim dont on parle?
Ah ben oui, c'est le même Karim. C'est pas Karim Benzema. Solal, de son grand prénom, il s'appelle Karim aussi. On va lui passer le bonsoir aussi à Solal.
Moussa, c'est
Jouba. Jouba qu'on a pu entendre avec son fameux sourire.
Hola a todos, estoy muy feliz de estar aquí con vosotros. Y hay un club francés que ha ganado ayer, el Paris Saint-Germain.
Et oui, je suis très content d'être avec vous. Je fais la traduction.
Vas-y, fais la traduction.
C'est l'Arcom qui oblige ça. C'est l'Arcom, c'est une obligation de l'Arcom. Je suis très content d'être avec vous parce que
c'est un vrai journaliste, mon cher ami. Il parle toutes les langues.
Et il y a un club français qui a gagné hier. Voilà, j'ai fait toute la traduction. Et donc, estoy muy feliz. Je suis très content d'être avec vous toutes.
Ah ben nous, c'est content de l'avoir avec nous, avec Yacine. C'est Moha le Duc. Moha le Duc, comment ça va? Un grand merci aux parents de Moha. Eh oui.
Il n'y a plus de gâteau.
Yacine va tout prendre, ça c'est sûr. Un grand merci à la maman de Moha. Bien sûr. Moha, comment ça va?
Bah, heureux? Écoute, moi je pète le feu. Franchement, c'était exceptionnel.
C'est cool.
Soirée.
Moha, il était serein. Il a dit attendant le match au retour.
J'étais serein.
Il a même dit ça, c'est pas vrai.
J'ai toujours été d'un calme olympien concernant cette aventure parisienne.
Ouais,
j'ai toujours vu cet effectif prendre le métro et filer directement vers la finale de la Ligue des Champions. C'était une très belle prestation et je suis pressé d'en discuter ce soir.
Eh ben oui, justement. Tu crois pas?
Pourquoi pas à l'instant? Parce que j'ai été là présent sur le plateau.
Tu l'as dit.
Surtout le mec qui est
là. Il n'y a pas que lui. Le coach Tolé disait aussi.
Ce que j'appelle moi le monteur des Oadia.
Ouais.
Sur le PSG, là, il se met sur son accent espagnol.
Si, claro.
Alors qu'elle a dit de la connerie
des fois on dit des bêtises, mais ça fait rien.
Les vrais espagnols ont compris.
Et toi aussi, Bilal,
moi toujours.
Je suis français malade. Déjà, le PSG, tu me parles de Mbappé. Mbappé, il était absent.
On va voir. D'accord. Ou pas, avec Yacine, avec Karim, avec Moha ou encore Jouba, vous nous contactez. On se fera un plaisir de vous faire passer sur l'antenne de Beurre FM par l'intermédiaire de Solal, notre réalisateur. Bonsoir Solal.
Buonasera tutti, salut Vilain.
Voilà. Il avait le bon pronostic sur l'AL. Oui, Benji avait dit 5-1. Sur l'AL, il a dit 4-1.
Mais il y a moyen à tout le monde.
Moi, j'ai dit 4-0.
Il faut quand même donner le crédit au grand maître pronostic qui a d'ailleurs un compte Yacine Sport le BG pour 78. À retrouver partout, qui avait prédit le score exact.
Shoot Africa.
Shoot Africa.
Exactement.
Quand vous voulez avoir les bonnes informations, allez sur Shoot Africa.
Exactement. Et les bonnes casquettes aussi, histoire de camoufler.
La calvitie.
Camouflé dans le décor parisien, excusez-moi, c'est un lapsus.
Je suis pas du tout parisien.
Mais, chers amis, en tout cas, bravo à Yas qui avait dit 4-1 il y a une semaine déjà, les gars. Donc, bravo à toi. Et ce match incroyable du PSG, n'est-ce pas, Bilal?
C'est vrai. Match incroyable. Paris Saint-Germain, donc, qualifié pour les demi-finales de l'édition 2023-2024 de la fameuse Champions League. Cette coupe aux grandes oreilles. Le Borussia Dortmund, la revanche. Revanchard peut-être les Parisiens ou les Allemands. Va savoir. En tout cas, Paris est bien là. Oui, peut-être, c'est bon, les planètes alignées. La bonne saison pour les Parisiens. Moha.
La bonne saison, peut-être. Après, il reste quand même le match de ce soir qui va se voir affronter les deux plus grands d'Europe
encore
actuellement.
Encore un autre niveau, on a l'impression.
Qui, pour moi, oui, c'est un autre niveau. Et ça s'est vu au match aller, de toute façon, sur le jeu, au score, 3-3. Avec les joueurs sur le terrain, présents sur le terrain. Les coachs aussi, même si Luis Enrique hier a prouvé qu'il faisait partie de cette planète-là et de ce niveau de coaching-là. Néanmoins, on a vu que c'était pas du même niveau. D'ailleurs, ça c'est.
Tu parles de Real City, précisons aux
auditeurs. Bien sûr, je parle de Real City et j'ai une petite pensée pour Xavi aussi qui a totalement perdu son sang-froid. Et bien sûr, en tant que supporter algérien, ça m'a donné quelques souvenirs et c'est quelque chose qui se ressent directement sur tes joueurs. Mmh. De l'autre côté, quand t'as un entraîneur qui sous pression a juste à lever le sourcil et à faire rentrer Rodrigo pour remporter un match, et l'autre qui a une maîtrise tactique presque parfaite du football. Tu te dis que c'est pas du tout du même niveau. C'est vrai qu'il y a l'effectif qui fait que, mais tout le microcosme de ces équipes-là est tellement petit et tellement concentré. C'est des espèces de singularités, des trous noirs qui paraissent petits et atteignables, mais vers lesquels on se brûle très rapidement lorsqu'on frôle leur horizon des événements, je dirais. Mmh. Du coup, très flippant.
Syndrome d'Icar.
Ouais. Exactement.
Voilà. Pour les connaisseurs du PSG.
Karim, moi, Paris Saint-Germain.
J'ai entendu dire très facile la victoire. Mais il faut quand même dire que d'abord, c'est le Barça qui ouvre le score hier.
C'est vrai.
Donc, c'est parti très mal. Mais ce qui a sauvé le PSG, c'est ce carton rouge, en fait. Sans ce carton rouge, on n'aurait pas du tout le même match. Et c'est de là que naît cette frustration de Xavi, qui avait pourtant fait le boulot au match aller face à son ancien entraîneur, Luis Enrique. Hein. Rappelons que Xavi était joueur de Luis Enrique quand il était au Barça. En tout cas, voilà, que dire. Il me semble, oui, il était joueur. Hein.
Oui, bien sûr, en 2015.
Je dis pas de bêtises. Ouais.
C'est bien ça.
Donc, on a vu quand même un PSG qui a repris le dessus, fort logiquement, en supériorité numérique. Et il fallait pas qu'ils nous fassent le coup une deuxième fois de se faire manger alors qu'ils étaient en supériorité numérique. Donc, en tout cas, il y a eu une victoire, il y a eu une belle maîtrise, il y a eu un coaching, je le disais hier, hein, les gens prenaient un peu pour un fou, mais tout a été fait pour cette forme de projection-là offensive, avec des flèches offensives, avec la rapidité d'Mbappé, mais aussi de ses deux compères sur son côté droit, Dembélé qui a été fort présent aussi, qu'on salue face à son ancien club, qui a marqué au match aller, au match retour d'ailleurs, et puis donc à sa gauche il y avait Barcola, hein, le jeune prodige, la Barcola
critiqué,
qu'on aime beaucoup, moi j'aime beaucoup, critiqué par des journalistes qui
des
critiquent tout le monde,
il y a pas de problème,
c'est pas critiqué ça, journaliste qui critique tout
Zuba.
N'importe quoi,
ok, on revient aux critiques,
sur le terrain, voilà, ils ont eu cette forme de projection là et ils ont eu un très grand entraîneur. Je pense que Luis Enrique s'est cagué au match aller, c'est un peu chié dessus quoi. Et au match retour, il a vite repris les rênes et
retourne pas sa veste,
Il y a eu toute une sagesse et je pense qu'il y a eu aussi un refocus où on a dû lui tirer les oreilles. Je le redis hier parce que je l'ai redit. On a dit, mais attends, t'as Kylian Mbappé, tu dois faire ton jeu aussi autour de Kylian Mbappé. Il est encore là.
Il n'a pas fait du tout son jeu autour de Kylian Mbappé.
Hier, la philosophie, c'était
comme toi,
la philosophie, c'était la finale
de. On n'a pas regardé le match.
Ah, mais je te le dis. Je te le dis.
Est-ce que tu as regardé le match déjà?
Mais bien sûr, on était avec Bilal à la Tour Eiffel.
Ouais,
dans la Tour Eiffel. Écoute, il y avait une philosophie où il avait une grosse assise défensive, un
milieu solide avec une pointe basse d'ailleurs, et il y avait cette projection là, il y avait une volonté d'aller chercher la rapidité de Kylian Mbappé. Donc le jeu a été construit autour de cette philosophie là. C'est un peu ce que faisait Deschamps avec l'équipe de France en 2018.
Moi je dirais Jouba, il a mis des joueurs qui sont complémentaires avec Kylian Mbappé. Il a pas fait une philosophie autour de ce match pour Kylian Mbappé. Par contre, sur ce que dit Jouba et aussi Moha, je suis d'accord.
Vas-y.
Moi, juste, je voulais vous rappeler qu'en début de match, alors à 1-0, but de Rafinha pour le FC Barcelone, on avait un peu peur. Moi, j'ai cru que, honnêtement, ils allaient jamais passer. J'ai cru qu'on allait assister encore à un match où ils allaient perdre tout, perdre fil. Et au final, le crédit, il est acquis. Le crédit, il est à toutes les années de galère du Paris Saint-Germain, toutes les fois où les arbitres ils ont été contre, en fait, le Paris Saint-Germain. Et en fait, là, pour moi, c'est, oui, le travail de Luis Enrique, mais c'est surtout le travail du club et des joueurs, fois. Là, je voulais mettre vraiment le crédit au club et aux joueurs. Luis Enrique, oui, c'est un grand entraîneur. Il nous l'a prouvé hier. Comme lui, il est en train de revenir sur ce qu'il faisait, et il est en train de revenir sur ce qui a pas beaucoup fonctionné au final. Du coup, hier, le crédit va aux joueurs et surtout, pour moi, c'est au club. Après des années de galère, après des années de non-retour. Et aussi de malchance, de d'environnement qui n'est pas favorable, et aussi un grand crédit aussi pour terminer aux supporters. Ouais. Franchement, il faut rendre un grand chapeau.
Ils étaient là, ils ont fait des
supporters parisiens
à Barcelone.
Franchement,
le PSG. Alors le PSG, remercier quelqu'un, ils doivent remercier Xavi. Il a fait
l'entraîneur catalan
quand ils étaient à 10. Il a fait sortir l'attaquant Yamal. Qu'il n'aurait jamais dû sortir. En laissant Yamal, il serait resté tel quel. Il aurait gardé l'équilibre dans son équipe. Je peux te dire que le PSG ne serait jamais revenu au score. Ils auraient même marqué plus de buts. À 11 contre 11, le Barça aurait bouffé le PSG.
À
1-0 sans le carton rouge qu'a pris le défenseur. Je te dis,
Anan, qui est consultant avec nous sur l'antenne de Beurre FM, c'est surtout un petit Barça entièrement raison raison à Yacine, excusez-moi.
D'ailleurs, la réaction de Xavi, sa nervosité, il avait compris l'erreur qu'il a fait. Parce qu'avec Yamal en attaque. Mais franchement, ils les auraient croqués comme des petites frites.
Yamal, qui était aux abonnés absents au match aller. Au match aller, il était aux abonnés absents. Du coup, comment on se base pour dire qu'il aurait tué le Paris Saint-Germain
sur son début de match, il faisait la différence.
C'est l'excuse qu'a eu Xavi.
Aucune excuse. C'est Xavi qui a perdu la bataille.
Pas du tout. C'est la faute de Araujo.
Je peux te répondre, moi.
Il n'a pas répondu.
Tout le monde, en fait, tombe sur cet argument. Barcelonais, n'importe qui, journaliste, pour dire le Paris Saint-Germain doit sa victoire au carton rouge qu'a reçu Araujo. Jamais de la vie. Vous savez pourquoi? On regarde juste les faits. En 2015 ou en 2014, quand le Paris Saint-Germain affrontait Chelsea et que notre meilleur joueur de cette ère-là, Zlatan Ibrahimovic, avait pris un carton rouge dès le début du match en taclant Oscar face à Chelsea, ça n'a pas du tout empêché le Paris Saint-Germain de vaincre le Chelsea qui était champion d'Angleterre cette même année-là. Là, c'est un Barça timoré qui de base était inférieur dans le jeu au Paris Saint-Germain. Du coup, je vois pas l'argument.
Profit de changement, ils ont gardé, parce que c'est un attaquant qui est exclu, ils ont gardé le même équilibre. Voilà. Et ils ont géré le match d'une manière. Et le PSG de 2014 est bien plus supérieur que le PSG de 2024.
On va retrouver Jouba. On a aussi Grégory, pas mal de personnes qui nous appellent du côté du standard.
Le rouge a clairement tout changé. Je pense qu'il avait une stratégie de jeu comme il l'a fait au match aller. Je pense qu'il avait des ambitions de bloquer, notamment Kylian Mbappé qui met le doublé. Je pense qu'avec une stratégie bien pensée, avec tous les défenseurs et avec ce qu'il avait en place et avec une projection aussi offensive avec Yamal, comme on le disait, ça aurait été totalement autre chose. Et ça serait se mentir que de dire que le PSG aurait gagné aussi facilement, ou même aurait gagné. Je pense que sans ce carton rouge, PSG auraient tenu tête, je pense, s'ils avaient ce mental-là. Parce qu'il y avait une stratégie complètement différente par rapport au match aller. Mais ça n'aurait jamais été le même match, quoi, sans ce carton.
On écoute Karim. Avant de retrouver Grégory et la première pause.
Je trouve ça extraordinaire, inouï, de critiquer Xavi.
Eh ben,
franchement.
Il a le droit, mais, et le fait.
Mais il a pris un carton rouge hier. Mais c'est normal. Il va défendre son équipe. C'est il va jouer le tout pour le tout. Ouais. Il va être, il y aura une certaine énergie. Il va être excité. Mais Xavi, bien sûr que si.
Mais bien sûr que si tu suis les matchs de l'Algérie, c'est très bien que si ton entraîneur il te lâche, toute ton équipe s'écroule.
Mais là, c'est pas.
Sur le mental, il a tué son équipe.
Bien sûr.
Avec Belmadi, on a vécu exactement la même chose. Tu perds ton sang-froid, les joueurs,
ils sont pas en Espagne ou sur le Belmadi espagnol. Hein.
Ouais, ouais, ouais. Assez nerveux.
Il est jeune aussi, c'est un entraîneur.
C'est marrant comment Xavi peut être en même temps tueur et en même temps l'entraîneur de cette équipe. C'est incroyable.
Il a tué son équipe.
Non, il n'y a pas tué son équipe. Il y avait une équipe en face qui est le Paris Saint-Germain et il faut leur donner du crédit. Moi, je pense pas.
C'est un jeune entraîneur.
C'est pas le PSG.
Mais justement, Bilal.
Moi, je comprends pas.
Moi, je comprends pas. On dirait qu'on s'étonne que le Paris Saint-Germain soit passé contre le FC Barcelone. Mais non, moi, je dis depuis le début, je disais que l'effectif du Paris Saint-Germain était plus grand. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. L'effectif du Paris Saint-Germain était largement supérieur à celui du FC Barcelone.
Le
Paris Saint-Germain est un grand club depuis quelques années dans la sphère européenne, sur la scène européenne. On en revient à, en fait, Luis Enrique, il a fait son travail, le Paris Saint-Germain a fait son travail et les joueurs ont fait leur travail,
avec beaucoup de chance.
Moi, je trouve ça incroyable, mais par contre, taper sur Xavi. Franchement, faut le faire.
Merci. Rapidement, Sola, avant de retrouver Grégory à la suite de l'intervention.
Il y a un problème avec ce premier but encaissé chez le PSG. Ça va devenir très problématique, je pense.
Honnêtement,
pour cette saison, personnellement, je les vois gagner la Ligue des Champions. Mais c'est quand même quelque chose qui s'installe dans ce club-là où ils peuvent montrer beaucoup de détermination dans les premières secondes. Ils tiraient beaucoup de fois. Je crois que la première mi-temps, ils ont 8 ou 9 frappes au-dessus du Barça, mais ils prennent toujours le premier but.
Ouais, ça, c'est
à surveiller pour la suite de la compétition.
On va voir. Le 0153483000, vous faites comme notre consultant aussi. Il va être avec nous, c'est Grégory. On va revenir avec le Paris Saint-Germain, Yacine, Moha, Karim, et sans oublier aussi Jouba. De suite.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, on le rappelle, dès ce soir, c'est l'avant-match. Hein, c'est Yacine, oui, bien sûr Yacine. Il mange beaucoup de gâteaux pendant la pause.
C'est pas bon.
21h pétante, Manchester City, du côté de l'Etihad Stadium, rencontrera pour le quart de finale, retour, le Real Madrid, la maison meringuée de Carlo Ancelotti. On rappelle aussi que le Bayern reçoit du côté de l'Allianz Arena à Munich les Gunners, ces canonniers d'Arsenal, la capitale anglaise, et les hommes d'Arteta. Voilà, Nagelsmann est prévenu. On le rappelle, bookmakers allemands qui nous prédisent une victoire à 39% pour les Bavarois, 20% prolongation à 25% et aussi 34% pour les Gunners d'Arsenal. Allez, sans plus tarder, on prend le chemin de la capitale française. On y reste du moins, mais plutôt le centre d'entraînement du Paris Saint-Germain.
Time Sport. La parole des sociaux.
Mbappé, bien présent à Barcelone, absent à l'aller, mais il était là.
Ouais, il était
Karim,
quand même là.
Karim, on écoute Karim.
Non, Mbappé, du coup, il termine le boulot. Et c'est magnifique que ça soit Kylian Mbappé qui termine le boulot hier soir. Honnêtement, qui nous plante les deux buts. Moi, je voulais revenir aussi par rapport à ce qu'on disait juste avant.
Allez, Bilal, c'est quoi?
Provoquer un pénalty par Barcola, il fallait le faire.
Oui.
On va dire expulser, mettre en rogne Xavi, il fallait le faire. Et mettre 4-1 à Barcelone chez eux, il fallait le faire. Donc, tout le mérite. Et au club, vraiment, et au Paris Saint-Germain. Après Kylian Mbappé, pour moi, en fait, je pensais que Luis Enrique, au début, il était en mode, Kylian Mbappé, c'est un joueur que j'ai déjà entraîné des joueurs de sa trempe dans d'autres clubs, au FC Barcelone, en Espagne, etc. Mais au final, c'est vrai qu'on peut lui reconnaître quand même qu'il a un peu piqué le joueur. Et même, j'ai remarqué que les autres joueurs du Paris Saint-Germain, ils sont plus concernés pour moi. Je les ai vraiment sentis concernés hier. Et en fait, cet alliage, cet effet de groupe, cet effet d'équipe qui est en fait le point positif et qui est pour moi la force première du Paris Saint-Germain, c'est que Luis Enrique, avec le traitement de Kylian Mbappé, a réussi à mobiliser tout le monde. Et franchement, c'est fort à lui.
J'aimerais appuyer les propos de Karim aussi concernant la performance de Kylian hier. Elle a été un peu réduite à ses deux buts, il a rien fait d'autre. Et souvent, on dit que c'était juste le Barça, c'était pas une
grosse équipe, en tout cas.
tous les journalistes et les commentateurs, j'ai regardé les commentaires sur plusieurs chaînes, tout le monde s'accordait à dire que le milieu de terrain du FC Barcelone était supérieur à celui du Paris Saint-Germain. Ça, tout le monde l'a dit, on l'a entendu.
Mais c'est vrai.
Mais sur papier, c'est vrai, Karim. Sur
Frankie de Jong,
Pedri, quand même, le meilleur milieu de terrain espagnol actuellement, et Gundogan qui sort d'un triplé avec Manchester City. Du coup, on est sur un niveau de milieu de terrain très élevé. En attaque, c'est le seul défaut peut-être du Barça, Rafinha qui est un peu en dessous des deux ailiers parisiens, mais quand même le meilleur neuf de l'histoire du Bayern Munich,
Robert.
Le meilleur neuf, un des meilleurs neufs des 10 dernières années tout simplement en Europe. Et en défense, on a une charnière Kubarsi qui est projeté comme être un des meilleurs prospects de défense au monde futur. Araujo qui se frotte à Vinicius chaque week-end en Espagne et qui est quand même reconnu pour être un défenseur extrêmement rugueux. João Cancelo qui a déjà pris la première ligue avec Manchester City, qui a fini meilleur passeur de première ligue. Et de l'autre côté, c'était qui l'autre latéral ?
Koundé.
Donc très défensif, mais quand même c'est un international, pardon.
Ah oui.
Là, tout le monde s'accorde à dire que Paris a une meilleure équipe sur le papier. Faux. On n'a que Kylian Mbappé qui est meilleur. Sur les ailes, il n'y a que Ousmane Dembélé qui est meilleur.
Barcola, il est très bon.
Au milieu de terrain, le milieu de terrain du Barça est meilleur. Et en défense, hier, ça s'est vu. Heureusement que notre charnière a élevé son niveau de jeu.
Ouais.
Là où il y a eu un problème.
On aurait été différent.
Pour moi, je vous dis, la bascule, elle est où dans ce match-là? La bascule, elle est pas parce que Kylian Mbappé n'était pas en prise à deux sur le côté. C'était pas parce que le Barça a pris un carton rouge. Non. Les buts du Barça sur le match aller se sont pris parce que Robert Lewandowski faisait des appels et attirait le défenseur.
Pivot.
En pivot, et Beraldo n'avait pas d'expérience et pouvait absolument pas gérer le cas Lewandowski. Hier, il s'est frotté à Lucas Hernandez.
Incroyable.
Qui lui est rentré dedans tout le match. Vie et expérience, ça s'est ressenti. Et à partir de ce moment-là, t'avais plus ton neuf qui pouvait descendre, récupérer les ballons et faire le jeu comme d'habitude. Parce que tes ailiers sont pas des ailiers capables de produire du jeu.
J'ai pas vu Lewandowski, honnêtement,
hier,
les gars.
Hier, il s'est fait bouffer par Hernandez. Et du coup, dans le jeu, le Barça pouvait plus rien proposer. Et surtout à 10.
C'est ça, Djouba. On l'a dit
globalement. Il y a eu le changement complètement de paradigme avec cette expulsion. Et tu parlais des statistiques en reprise d'antenne là. Ouais, les statistiques étaient complètement à la défaveur parce qu'on rappelait 29% selon les bookmakers hier pour la qualification du PSG. Finalement, ils ont complètement renversé la tendance. Mais il y a eu vraiment ce carton. Je pense que on peut dire ce qu'on veut, mais ce carton a complètement bouleversé le schéma tactique et que Kylian Mbappé, du coup, a pu se frayer des chemins beaucoup plus facilement. Et on le voit d'ailleurs, en plus, en fin de match, là où la fatigabilité des joueurs était beaucoup plus voyante, j'ai envie de dire. Donc, c'est complètement ce cours du match qui a joué en la défaveur du Barça, qui, rappelons-le, devait au moins sauver la mise, parce que le Barça est dans une mouise financière catastrophique à venir. Donc,
en parlant business, peut-être.
Et donc, le Barça, qui malheureusement, en plus, deuxième de Liga, ils sont loin, distancés. Ça risque d'être compliqué quand même pour les hommes de Xavi.
La fin en tout cas. Yacine, avant de retrouver Grégory.
Qui s'en va d'ailleurs.
Ce Barça, Kylian Mbappé aussi.
On peut comparer les joueurs parisiens. Individuellement, on peut dire ce qu'on veut. Après, les joueurs du PSG ont appliqué les consignes, ont bien travaillé. On sentait un groupe, ils étaient beaucoup plus collectifs que d'habitude. Il y avait un esprit, il y avait une volonté de pouvoir renverser la vapeur, surtout l'expulsion du joueur. Je pense que ça les a remotivés.
Ouais.
Et après, je pense un joueur comme Vitinha qui est en train de prendre une certaine.
Le but qu'il a inscrit,
la frappe.
Ouais.
Quand on regarde quand on revoit le but plusieurs fois, on se rend compte il a une technicité mais incroyable, la précision avec laquelle il fait sa frappe.
On peut pas négliger ça.
Et là le travail, tu sens qu'à l'entraînement ça a beaucoup travaillé, il y a beaucoup de combinaisons. Donc quand moi j'entends, parce que des fois on envoie les journalistes français à la radio surtout, ils commencent à des mecs qui n'ont pas joué 30 secondes dans une cour de récréation, ils peuvent se permettre de juger des joueurs de la trempe de Vitinha ou Fabian, qui a fait un match incroyable, il était dans tous les bons coups.
Il était bon.
Et Mbappé, on peut dire ce qu'on veut.
Ouais.
Mais là, sur ce match-là, là où il a montré que c'était vraiment un grand joueur, parce qu'il a traversé quand même, il ne faut pas oublier, ça fait 4 ou 5 semaines qu'il est vraiment dans le doute. Et sur des balles, quand on voit le deuxième but, quand on a joué au football, comment la rapidité, comment ça, il a raté son premier essai, quand le ballon lui revient comment il tu vois, la maîtrise
naturellement. C'est alors, naturellement
fou, alors justement c'est un buteur. Yacine, on va retrouver Grégory, c'est incroyable. On a Farid Grégory. Farid qui est sur les réseaux sociaux, qui nous dit Xavi a tué son équipe en sortant là Yamal, fallait sortir Lewandowski. Eh oui Karim, entièrement d'accord avec Yacine, et le laisser avec Rafinha. La clé pour les Parisiens, c'est côté dur. Parisien moi, c'est enfin d'avoir trouvé ce créateur qui n'est autre que Vitinha. Grégory, bonsoir Grégory, comment ça va?
Bonsoir Grégory. Bonsoir à tous. Bah écoute, ça va très bien. J'espère que vous aussi, ça va bien. Et ça va d'autant mieux que le PSG a gagné. Hein, donc on est extrêmement heureux de voir le PSG qui oui. sort de ce, mauvais, voilà. de ce mauvais pas, d'avoir un club français qui est maintenant à nouveau en demi-finale. Et c'est vraiment une très 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 grande satisfaction.
Justement, Mbappé peut-être absent à l'aller, au retour il était là, les Parisiens une bouffée d'air, on avait l'impression à la fin du match, je sais pas, surtout les supporters parisiens, ils avaient en eux, hein, les nouveaux, même les anciens, en la personne de Marquinhos, cette remontada, il fallait avoir ce revers de la médaille, vrai, et balayer cela,
le grand match, hein, de Marquinhos,
hein, Marquinhos aussi tourner la page. Exactement. Et on a l'impression que ça a pris ces joueurs,
mentalement, ça
mentalement ressenti, pendant ouais. tant de saisons, ouais. faut le rappeler Grégory, ouais, le... agent justement
de
joueurs.
La remontada. Hein, par rapport au match et puis ce qui est dit, je suis d'accord sur beaucoup d'éléments. Déjà la satisfaction, il y a eu du jeu, il y a eu beaucoup de choses positives. Je vais déjà commencer par Enrique. Je pense qu'il a dû écouter notre émission de lundi. Pour une fois, il n'a pas bougé les joueurs, il a laissé les joueurs à leur poste, à leur place. Peut-être un petit quid vis-à-vis de Vitinha, à savoir est-ce qu'il est mieux en 6 ou en 8. Personnellement, je pense qu'il serait bien meilleur en 8, mais on aura l'occasion de débattre là-dessus. Hier soir, ceci étant, je m'aperçois, et moi c'est l'analyse que je fais, je pense que Xavi fait quand même une leçon tactique à Enrique. Ça se voit lors de la première, des 30 premières minutes. Il faut le Barça faire un super maillage de terrain. On a des joueurs qui ont l'envie, les couvertures, elles fonctionnent super bien. Et puis on s'aperçoit que le Barça, à chaque fois qu'il va rentrer dans les 30 mètres, on tremble, il y a des occasions, on voit que c'est extrêmement efficace. Et je pense que ça devait être d'ailleurs toute la tactique sur la première mi-temps voulue par le Barça. Ensuite, au niveau du PSG, que dire ? Marquinhos, top joueur mondial en termes défensifs. Je suis pas sûr qu'il puisse faire mieux. Au niveau de l'attaque, j'ai trouvé que Barcola a été de très loin notre meilleur attaquant par rapport au PSG, que ce soit en termes de vitesse, que ce soit en dribble, que ce soit dans les petits espaces ou en profondeur, et surtout dans le dernier geste, chose qui manque à son pendant de l'autre côté. Et à mes yeux, je trouve que ça a été l'homme du match, parce que c'est vraiment lui qui a débloqué les choses, ne serait-ce qu'à travers le pénalty, et puis pas mal d'offrandes qu'il a offert et qui malheureusement n'ont pas fait. Et ensuite, je reçois également l'analyse qui est faite sur Vitinha. Pour moi, Vitinha, c'est l'homme du quart de finale, que ce soit à Paris quand c'est on a ça. Joué, il a permis à revenir, mais que ce soit hier soir aussi, il a fait la différence, et dans les deux cas de figure, on remarquera, il fait la différence dans les moments clés. Ensuite, pour en finir sur le Barça, la force du Barça à l'aller, je dirais, forcément la tactique et le milieu de terrain, et ça vous l'avez suffisamment évoqué, mais ça a tout surtout été la jeunesse et l'énergie de la jeunesse. Et la faiblesse d'hier soir, malheureusement pour le Barça, ça a été sa jeunesse. Les erreurs qui sont commises, que ce soit la faute qui amène le pénalty, la faute qui amène l'expulsion, ou que ce soit le pénalty par la suite, c'est vraiment des erreurs de jeunesse, de débutants. Elles n'ont pas lieu d'être. La faute qui amène l'expulsion, il peut laisser partir Barcola au but. Je suis même pas sûr qu'il a la balle par la suite. Et combien même il a la balle, il est en duel avec son gardien. Le gardien en face, c'est très fort aussi. Je pense que c'est mal analysé, c'est mal géré. Et puis le pénalty ensuite, c'est une offrande qui est faite au Paris Saint-Germain. Ça fait toute la différence. Maintenant, sur ce qui est dit, moi aussi, je suis d'avis. Moi, j'aurais laissé Yamal à la place de Lewandowski. Pourquoi ? Parce que en termes de vitesse et autres, il aurait fait beaucoup plus mal. Lewandowski, il servait plus comme à l'aller de point d'appui, de fixation, sur qui on pouvait s'appuyer. Donc effectivement, là-dessus, vous avez entièrement raison. C'est, ouais. Ça a été une vraie logique.
Allez, Karim, et après on revient à Jouba.
Ouais,
Grégory.
D'accord. Alors.
Il sait pas en tout cas.
Bonsoir, Grégory.
Vas-y, Karim.
J'avais une question pour toi, s'il te plaît. Du coup, tu nous as parlé de Barcola, mais pour moi, le joueur impactant hier, c'était plutôt Ousmane Dembélé sur l'attaque du Paris Saint-Germain. Tu n'es pas d'accord avec moi ?
Non, parce que moi, je vois deux matchs. Le premier match, c'est avant l'expulsion, et il y a un deuxième match ensuite. Dembélé, je le vois dans le deuxième match, je le vois pas dans le premier match. Avant les 30 premières minutes, celui qui met de l'impact physique, celui qui amène le danger côté parisien, et on n'a pas été très dangereux les 30 premières minutes. Regardez, renvoyez le match, vous verrez. On se crée pas
c'est
des occasions.
C'est celui qui légalise dans les deux matchs. Hein.
Comme Barcelone l'est. Celui par contre qui est dangereux, c'est Barcola.
Ouais.
Alors là, les 30 premières minutes, le plus dangereux des attaquants, c'est Barcola. Et c'est lui d'ailleurs qui fait toute la différence, et c'est lui qui débloque le match. Personne d'autre, faut pas se
après Dembélé, c'est pas le même profil que Barcola. Barcola, il est plus dans la vitesse, dans la puissance, dans la provocation. Dembélé, il est beaucoup plus dans l'élimination, dans la facilité, dans le truc. Mais le but qu'il met aussi, il faut le mettre, il faut être là.
Bah ouais. Et techniquement, son
club et techniquement
aussi, hein.
c'est incroyable comment il met son pied.
Ne dites pas que techniquement, Barcola est au-dessus de Ousmane Dembélé, parce que là,
sinon, il avait la même technique que Ousmane Dembélé. Et coûterait 250 millions d'euros.
En tout cas, Ousmane Dembélé, sur la prestation sur les deux matchs, c'est lui qui égalise un partout sur les deux matchs. Franchement, d'un point de vue technique, le monde l'a vu.
Il est face à son ancien club. Mais le gros point noir pour le Barça, c'est sa défense. Même Ter Stegen, prendre 4 buts, c'est ça aussi. Ils ne sont pas à domicile. Mais c'est tout comme être à domicile. Et là, ils sont dans le stade d'à côté, ils sont à Barcelone. Et prendre 4 buts presque à la maison, c'est 4. Catastrophique, catastrophique. D'autant plus qu'il sort un attaquant pour maintenir une défense solide. Ils prennent quand même 4 buts derrière. Ils sortent Yaman. Ils ont raison de sortir Yaman parce que t'as besoin de. Je peux finir, s'il te plaît. T'as toujours besoin d'un mec comme Lewandowski qui a une expérience de fou. Donc, heureusement quand même qu'il laisse Lewandowski. Mais, enfin. 4 buts à la maison, Ter Stegen, il se trouve de partout, c'est du gruyère la défense, c'était du fromage quoi, c'était une catastrophe pour le Barça de ce point de vue là.
C'est la défense, c'est vrai pour moi.
Allez rapide, d'abord la dernière pause, Sola, on l'écoute.
Ouais, chers amis, si vous avez été attentifs, chers auditeurs et chères auditrices, je vous invite à réécouter les podcasts parce que c'est vrai que Vitinha en parle beaucoup là depuis hier soir, même depuis déjà plusieurs rencontres. Et Chekib, souvenez-vous, on avait parlé avant même qu'il foule le sol français.
Ça fait très 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 longtemps que Chekib en parle, il nous écoute ce soir aussi.
Merci à lui pour son expertise.
C'est vrai.
Et donc je vous invite à écouter les podcasts forcément sur le site de BFM. Aussi, dernière chose par rapport à la malle, vous l'avez souligné, la malle sur les deux confrontations, c'est un des premiers à faire la passe décisive sur les premiers buts.
Premier
match, il fait la différence en termes de vitesse, mais c'est un but de fou, hein, franchement, qui met le jeune, il arrive à je crois casser un rein à Nuno Mendes. Faut le faire quand même. Passe décisive passe décisive au second match. La malle, fallait le laisser. Ça, je suis d'accord avec vous.
Mais tu peux pas sortir Lewandowski.
De là à sortir Lewandowski, honnêtement, sur le terrain, la décision, elle est juste. Ensuite, si vous commencez à faire rentrer dans l'équation l'expérience Ligue des Champions, le fait qu'il est imposant en taille et que Xavi, quand il le regarde, il se dit j'ai peut-être moins envie de le sortir que la malle. Bon, ça, c'est des choses, je pense, qui sont un peu moins footballistiques.
En termes de jeu, il méritait d'être sorti.
Le rouge a tué le match.
À son arrivée, quand son transfert a été conclu à Paris, quand on a vu la somme que Paris devait payer pour Lyon, 50 millions d'euros, il y avait beaucoup d'émissions, mais les mecs, j'ai l'impression qu'ils ne regardaient pas les matchs de Lyon. Quand on est spécialiste du football, donc on comprend la valeur d'un joueur. Ils en ont fait tout un pataquès. Aujourd'hui, Barcola, c'est 100-150 millions d'euros.
Bien sûr.
C'est 100-150 millions d'euros, Barcola.
Surtout quand tu vois Colomboigny, 100 millions d'euros.
C'est 100-150 millions d'euros, Barcola.
C'est incroyable le traitement de faveur pour Bradley Barcola. Là, tu me dis, il vaut 150 millions d'euros sur le marché des transferts. Impossible, mon Yassine. Il n'a encore rien prouvé. Il a un fort potentiel. Mais franchement, quand on me dit que Barcola a fait un meilleur match qu'hier que Ousmane Dembélé, franchement, les amis, vous aimez trop Barcola.
Voilà, la fille et la maman de Yacine à qui nous passons le bonsoir. Grégory, un gros merci à toi, Grégory, d'avoir réagi sur l'antenne de Beurre FM. On a aussi, c'est Soufiane qui nous écoute. Il est dans l'hémisphère sud. Il est très 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 loin, loin que la Réunion.
On va pas te dire
parce que toi, qu'est-ce qu'il y a?
Je vais aller enquêter là.
Tu devais, voilà. Mais lui, normal.
Ce qui m'étonne, c'est Juba, comment il retourne sa veste.
Oui, bien sûr.
Bien sûr.
Je te jure que Luis Enrique, c'est un mur.
Time Sport revient dans un instant.
20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, il y a Aurélien Duarte, il est assez chaud, c'est un bon bébé. Ah bah oui, bah reste tranquille.
Ah, il est là.
Tu vas voir.
Grand respect reste pour Aurélien.
Ah bah oui, toi tu as le respect pour tout le monde. Il a raison, hein. Bah, Yacine, tu retournes beaucoup ta veste, hein, parce que quand on était la dernière fois dans le métro, hein, il n'y avait pas de du grand respect. Tu m'as laissé tout seul, hein. Hein, voilà, mais enfin bref. Karim, il est avec, oui. Il est avec nous, avec aussi Yacine, sans oublier Moha le Duc. Voilà, Moha, on revient. On parlait de ce Paris Saint-Germain. On va s'attarder à aller encore un peu sur le PSG, mais après, on prend le chemin de Manchester City. Parce que là aussi, il y a beaucoup de monde qui nous attend sur ce sujet-là.
Time Sport, le mode pressing.
Allez, on l'écoute, Moha. On revient à toi, Moha.
Moi, j'aimerais vraiment, puisque c'est la soirée des compliments qui a commencé Karim, moi, j'aimerais donner du crédit à deux joueurs, vraiment, même si il a, un d'entre eux a commis quelques erreurs. J'aimerais remercier le peuple lusitanien pour Cristiano Ronaldo, les pastéis de Nata et Vitinha, parce que hier... Franchement, j'étais à deux doigts d'aller à Lisbonne, de tomber amoureux d'une Portugaise et de finir ma vie là-bas, parce que clairement, le match de ce garçon, c'est de la folie absolue. Ouais. Quand il est venu de Porto au Paris Saint-Germain, on a critiqué Luis Campos en disant que c'était encore un achat de stress, de dernière minute, un achat compulsif. Quand on regardait ses matchs avec Porto, il y avait une maîtrise au milieu de terrain et il avait la seule chose qui manquait au milieu du Paris Saint-Germain, c'était les frappes de loin. Il avait cette qualité-là. Et hier, quand tu le vois, de la 60e à la 80e minute, le Paris Saint-Germain se fait bouffer par le FC Barcelone, qui lâche tout. De toute façon, il faut rentrer deux attaquants. Il faut rentrer à João Félix et Ferran Lopez. Ouais. Du coup, ils sont à fond laqués sur l'attaque et le Paris Saint-Germain se fait bouffer. On a cette petite sensation qui revient de stress où tu te dis non. Marquinhos fait un tac salvateur sur Lewandowski qui donne une bouffée d'oxygène et juste après ça, t'as Vitinha qui prend le ballon et qui part de l'avant systématiquement. Ça, c'était quelque chose qu'on n'avait pas avec le Paris Saint-Germain parce que l'antécédent, c'était Marco Verratti qui faisait tourner la balle et qui essayait d'aller dans les petits espaces.
Incroyable.
Marco Verratti, franchement, un de mes joueurs préférés du Paris Saint-Germain. Mais là,
il te fait penser à lui.
Il te fait penser à lui techniquement. Ouais, c'est pas du même niveau, je pense. Mais dans le style de jeu. Quelqu'un qui peut garder la balle tranquillement et faire jouer un mec comme ça au poste de numéro 6, faut le faire parce que fallait avoir le bagage physique déjà pour tenir le coup face au milieu du FC Barcelone et fallait aussi avoir le bagage technique, envoyer le ballon très loin mais pas la dégager comme Donnarumma, la mettre dans les pieds, savoir accélérer le tempo du match très vite parce que le Barça n'avait pas besoin de ça, besoin que le match s'emballe vraiment. Et Vitinha était là à mettre constamment de la pression sur le milieu de terrain du Barça.
Mais l'analyse est faussée de toute manière. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent en supériorité numérique à avoir beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de temps pour exécuter les choses au milieu de terrain. Vitinha est bon.
Il a fait la même chose au match aller.
Au match aller, il l'a fait. Ben, on a vu le résultat. Ça a pas donné la même chose. Et il faut le dire quand même, cette supériorité numérique a joué en faveur du PSG avec l'apport de Hakimi sur le côté et de Barcola qui n'était pas là sur le match aller et puis de Zaïre Emery aussi au milieu.
Je
pense que ces apports là et puis il faut quand même dire que vraiment il y a une analyse qui est faussée par ce fait de jeu là qui est frustrant.
On n'est pas sur dans Yu-Gi-Oh, c'est pas une carte que le Paris Saint-Germain a sorti d'un coup.
Non, on n'a pas inventé
cette règle là du carton rouge, c'est le règlement du football. Quand t'es dernier défenseur avec Tanil, une action de but, c'est carton rouge.
Combien de fois le Paris Saint-Germain a subi
exactement. Pour moi, faut arrêter de mettre ça sur la faute de ce carton rouge là. C'est pas le Paris Saint-Germain qui a inventé cette règle là. Paris Saint-Germain a marqué des buts après et avant ce carton rouge là. C'est pas un souci de carton rouge. Je l'ai déjà dit, Jouba. Les équipes ont déjà remonté des matchs en étant en infériorité numérique. Ça ne veut absolument rien dire. Le FC Barcelone sur le papier a de meilleurs joueurs que le Paris Saint-Germain au milieu de terrain. C'était à eux de faire le taf et de garder la balle et pas céder aussi rapidement.
On termine sur le Paris Saint-Germain rapidement, Karim. On doit parler de Manchester City avant Aurélien Duarte.
Sur ce que dit Moha, je suis totalement d'accord avec lui. Et moi, je dirais même que quand il y avait Messi, la première année de Messi, moi j'ai dit, on a déjà un Messi, on a Vitinha.
Ouais.
Et ça, je l'avais dit, ça fait déjà deux ans que je le dis. C'est pas la même chose, Messi-Vitinha. Je compare pas Messi-Vitinha.
Mais
quel talent. Et juste pour finir, mon Bilal,
alors,
Paris Saint-Germain va tomber contre le BVB.
Ouais, Dortmund. Bon, les Allemands c'est, de Dortmund.
Entre l'Atletico et le BVB, j'aurais préféré prendre l'Atletico.
Carrément.
Vous allez voir le match. Le match aller, il est chez eux, il est en Allemagne. C'est là que la qualification en finale va se jouer.
En 2020, ils les ont affrontés, ils les ont battus.
Un mur jaune. Un vrai mur jaune. Bien et sûr. Tout le monde saute en même temps en plus. Ouais. Donc ça fait un mur. Un mur de personnes incroyables.
Mais
le BVB, ce qu'ils ont fait hier contre l'Atletico, les sortir Bilal, c'est incroyable. Et franchement, le Paris Saint-Germain n'aura pas la voie tracée. Ça sera si bon jusqu'en finale. Ce sera tout à leur honneur. Ils auront fait un vrai parcours en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain.
Bien sûr.
BVB, c'est pas n'importe
21h, on approche à peu près dans moins de 20 minutes. City, les Sky Blues de Pep Guardiola face à Ancelotti et ses hommes. Le Real Madrid du côté de l'Etihad Stadium, sans oublier à l'Allianz Arena à Munich. Arsenal, justement, se déplacera du côté de Munich avec Arteta et toute sa troupe face à Nagelsmann et ses hommes. Nous, on va s'attarder plutôt sur le match phare. Le match c'est l'excellence,
le
on va dire, du football.
C'est le match de l'année.
Mondial en Champions League, quart de finale, la finale avant l'heure. Manchester City, donc, face au Real Madrid. Et avec, c'est vrai, deux grosses équipes. Et ça va très, très vite.
Ça va très vite, mais c'est ce qui ressort le plus et ce qui m'a vraiment choqué. J'ai regardé la conférence de presse du Real Madrid hier.
Alors.
Et c'était Jude Bellingham qui était présent pour présenter les merengues. Et première apparition, il dit, moi, ce qui me stresse le plus, c'est la conférence de presse, c'est pas le match de demain. Et à ce moment-là, quand le mec dit un truc comme ça,
ça sent pas
c'est bon. Qu'il maîtrise. C'est non. Que t'es dans une maîtrise totale de ton art.
Ouais.
Et quand tu vois que c'est quand même un milieu de terrain qui est meilleur buteur de la Liga et meilleur passeur au sein d'une équipe extrêmement offensive. Au côté de lui, t'as Vinicius, t'as Rodrigo qui plante beaucoup. Et ce mec-là te montre à son âge une précocité et une gestion de son football qui est totalement lunaire.
C'est
et
très intelligent.
Quand tu dis,
c'est vraiment
d'éducation.
C'est vrai.
Pour moi, c'est de l'éducation.
Et je le pense
quand
aussi.
Son père lui montrait des vidéos de Zizou petit. Ouais. Tu m'étonnes que le gamin grandisse et il devienne comme ça en fait. Quand t'as l'exemple en fait de ce qu'est la quintessence même de l'art footballistique, tu deviens ce que t'es. Et de l'autre côté, t'as Bernardo Silva qui est franchement
incroyable,
un Vitinha mais avec plus d'expérience.
On a des Zidane aussi dans notre équipe.
Franchement, ce match, j'ai vraiment l'impression que ça va être la Justice League face à la Ligue des Ombres. Razalgou d'un côté,
Razalgou est très très fort. Razalgou,
je sais très bien qu'il est très fort. Razalgou, franchement, on lui passe le bonjour d'ailleurs. Mais franchement,
ça fait très très peur.
Je me dis, ça va être le choc des Titans auquel on s'attend vraiment, et je suis très pressé de voir ce match.
Allez Karim, avant de retrouver Sijouba,
un petit point terminé. Mon Bilal,
vas-y.
Un petit point compo. Alors on a
la compo
du Real Madrid. Alors on a un gardien encore méconnu, André Lunin. Voilà. On a quatre défenseurs avec un Ferland Mendy arrière gauche, Nacho Rudiger dans l'axe et Dani Carvajal arrière droit. On a trois milieux.
Alors
Camavinga en 6, en 8 à gauche, Kroos et en 8 à droite, Valverde.
T'inquiète
Valverde
pas.
Fait son apparition.
Ah ben voilà.
Et un trio d'attaque avec à gauche Vinicius Junior, Bellingham en 9, Fodis et à droite, ailier droit, Rodrigo.
Ah,
en ce qui concerne Manchester
City, rapidement.
Ederson Okage, Walker, Ruben Dias, Akanji, Guardiol, Rodri en 6, une ligne de 4 milieux, Foden à droite, Bernardo Silva, De Bruyne, Grealish à gauche, et en pointe tout seul, Haaland. C'est un match incroyable.
Ça promet, Jouba. Au
vu des compositions, il va y avoir une grosse assise défensive de la part de City et des projections offensives qui vont peut-être poser du temps au Real. On sait qu'ils en ont pris 3 au match aller, 3-3, on le rappelle, le résultat au match aller. Là, il va y avoir, j'ai l'impression, un verrouillage plus important du côté de City qu'au match aller, avec en plus une projection offensive. Rappelons que là, tu disais, le gardien, il est inconnu au bataillon.
C'est mon cousin.
Il est là.
De quoi
Jouba. C'est bon, Jouba. Je sais pas où tu es, Jouba.
Dernière petite anecdote, les joueurs du Real Madrid, en allant s'entraîner tout à l'heure sur la pelouse de l'Etihad Stadium.
Alors
quand ils sont sortis du vestiaire pour aller sur le terrain,
bien sûr,
dans le couloir, il y a l'emblème de Manchester City. Ils l'ont esquivé carrément.
Carrément.
C'est incroyable.
Ils n'ont pas voulu marcher dessus.
Ils l'ont regardé.
C'est pas un respect.
Moi, je pense que c'était plus. Ils veulent vraiment.
Superstitieux. Chekim nous dit que tu as raison. D'échec et match.
Je me fais tripoter le crâne.
On va retrouver Aurélien Duarte. On y va. Bonsoir Aurélien, nous t'écoutons.
Bonsoir les âmes, bonsoir Bilal, bonsoir les chroniqueurs, vous allez bien? Ouais, très content d'être là aujourd'hui. Une chronique improvisée sur ce phénomène qui nous heurte tous, qui nous surprend et qui nous choque, sur ces hyper brutalités dans la jeunesse. On peut même voir carrément des actes de torture, des actes de barbarie. Là, c'est l'ancien ado qui parle, le père aussi. Ça fait vraiment mal au cœur de se demander comment ces jeunes peuvent avoir autant de cruauté en eux. Alors, est-ce que c'est seulement cette génération qui a fait tellement d'écart et qui nous déçoit? Je vais vous donner quelques références qui vont vous rassurer. Notre jeunesse aime le luxe. Elle est mal élevée. Elle se moque de l'autorité et n'a aucune espèce de respect pour les anciens. Nos enfants d'aujourd'hui sont des tyrans. Ils ne se lèvent pas quand un vieillard entre dans une pièce. Ils répondent à leurs parents et ils sont tout simplement mauvais. Socrate, moins 470 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, ça date pas d'aujourd'hui, hein. Notre monde a atteint un stade critique. Les enfants n'écoutent plus leurs parents. La fin du monde ne peut pas être loin. Un prêtre égyptien en moins 2000 avant Jésus-Christ. Les jeunes d'aujourd'hui ne pensent qu'à eux. Ils n'ont pas de respect pour les parents ou la vieillesse. Ils sont impatients et refusent toute contrainte. Pour ce qui est des filles, elles n'ont aucune retenue. Elles sont impudiques. Elles n'ont aucune distinction dans leur discours, leur comportement ou leur habillement. 1274. Donc vous voyez, ça date pas d'aujourd'hui qu'une génération surprenne, choque et déstabilise la génération précédente, et c'est dans l'ordre des choses. Cette génération nouvelle est là pour nous amener vers la nouveauté. Maintenant, on peut se poser légitimement la question, qu'est-ce qui a changé depuis une trentaine, une quarantaine d'années, qui fait que les bagarres de quartier, les bagarres, les guerres de clochers, ça existait bien avant les HLM et tout ça, les rivalités, les rixes, ça a toujours existé. Qu'est-ce qui fait que ça se soit banalisé autant? Qu'est-ce qui a été multiplié depuis ces dernières années? Eh bien justement, la banalisation par les jeux vidéo, par la violence dans la télé. Regardez un spot de pub. Je regarde pas la télé depuis 15 ans. J'ai regardé une pub l'autre fois, j'ai eu peur. Il y a une bagarre, une explosion, un coup de poing, sincèrement, et on a banalisé tout ça pour nous toucher dans nos émotions. Tous les films, il y a un méchant à tuer, il y a un salaud. On éduque les enfants avec le fait qu'il y a une compétition et qu'il y aura toujours un salopard à buter. Donc l'enfant, forcément, il veut être le plus fort. Élevé à la compétition, on est constamment en train de voir l'autre comme un rival, comme un danger potentiel, que le monde ne serait pas suffisant. Donc ça développe deux tempéraments. Ceux qui sont agressifs pour prendre aux autres et ceux qui se victimisent pour qu'on leur en laisse un peu. Mais c'est le même résultat. Donc véritablement, il faut se questionner sur aussi nos brutalités. Beaucoup d'amour pour tous les parents. J'ai fait plein d'erreurs. Je suis moi-même fâché avec ma fille de 20 ans. Je ne juge personne, hein. Je travaille en face d'une école. Ils sont à 50 mètres. J'entends quand ils parlent aux enfants. À 50 mètres, j'entends. Mais quelle est la voix qu'entend l'enfant, lui, à 5 cm de son oreille? Eh ben, c'est ça toute la journée. Range ton cartable, va ici, mets-toi là, ne dépasse pas du rang. Que des mots qui vous contraignent, qui vous rabaissent, qui vous rappellent que vous n'êtes pas assez. N'importe quel adulte qui aurait un patron comme ça, on dirait que c'est un pervers narcissique, un harceleur, on poserait un congé, il se fera attaquer et on gagnerait. Eh ben, je vous assure qu'on a une brutalité qui est devenue acceptée avec nos enfants. Le timbre de voix avec lequel on en parle, la vitesse à laquelle on leur parle, et au-delà de ça, les privations. Les manques de bravo, super, continue. Vous savez pourquoi les jeunes se bagarrent? Ils ne se caressent plus. Quand il n'y a plus de tendresse, les corps humains ne peuvent pas s'empêcher de se toucher. Regardez, entre potes, on se tape dans le dos, on se bouscule, on se bagarre. Quand deux amis ne se prennent pas dans les mains pour se faire un check, ils se créent une dispute pour se taper dessus. Les couples qui n'ont plus de rapports sexuels, souvent, ont des rapports violents. Donc, ce que je veux dire, c'est que reconnecter les adolescents, les toucher, les prendre dans les bras, sans être intrusif, mais leur continuer à garder ce contact. Parce que sinon, le seul contact qu'ils cherchent, c'est la brutalité. Une autre chose que j'ai remarqué, on passe du laxisme à la dureté. On laisse faire, on laisse faire, on laisse faire. Et à un moment, ça nous casse les pieds, et là, on punit. Qu'est-ce qu'on apprend à l'enfant? Un déséquilibre total. Je peux pas compter sur cet adulte. Il n'est pas stable. Donc, ce qu'il faut passer maintenant aujourd'hui, c'est plutôt de la justesse et de la fermeté. Non, c'est non. J'ai pas besoin de me mettre en colère. Mais mon non est non. Tu peux donner des arguments. On peut en parler. Je ne monterai pas dans les tours. Comment se fait-il que des enfants arrivent à nous déstabiliser? Est-ce qu'on est bien adultes nous-mêmes? Une autre chose, l'alimentation. Ça fait 30 ans que je bosse avec les gosses. J'ai jamais vu aussi agité que ça. Des canettes, des trucs, des grignotages. Ils arrêtent pas. Ce sont des bombes à retardement. Tous les enfants que je suis, j'arrive à convaincre les parents, 3 jours sans sucre. Le môme dort, il refait la sieste. Ils sont shootés, vos gamins. Arrêtez avec tout ce poison que vous leur mettez dans le cornet. On les laisse faire, on les laisse faire, on les laisse faire. Et pour avoir la paix, qu'est-ce qu'on fait? La tablette les jeux vidéo, la télé et du sucre. T'as pas fait des gosses pour avoir la paix. C'est ce que ma mère m'a dit quand je lui ai dit « Ah maman, j'arrive pas à dormir, Indiana, elle court partout. » T'as pas fait des enfants pour avoir la paix. T'es là pour apprendre toi à avoir la paix en toi. Les pertes de valeur. On est une société très individualiste, famille éclatée, les parents séparés font de leur mieux, mais souvent, il n'y a pas le lien avec l'autre, il n'y a pas un autre, mais il y a des amourettes, il y a des plans cul, des choses comme ça, ou des, je suis un éternel célibataire. On raconte aux enfants qu'on peut se faire tout seul, et que la famille, qui est la base de toute civilisation, n'a plus d'importance. Donc c'est important de reconnecter ça aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, ce qui, ça tue l'empathie. On a remarqué vraiment l'effet des jeux vidéo et de toute cette brutalité, c'est que ça tue l'empathie. L'enfant, à force de voir des cadavres, des gens qui meurent, ben, il passe devant des SDF dans la rue. Et très très tôt, ben, on perd cette pureté. La chose aussi, je vous en avais parlé sur la chronique sur les enfants. Dépêche-toi, accélère. Voilà la première forme de violence. Un enfant, jusqu'à l'âge de 4 ans, il est en état têta, il est gaga tout le temps. Donc c'est forcément qu'il soit au ralenti. Poser une question à un enfant, le parent répond avant lui. Et il est timide. Laissez-leur le temps. Notre cerveau d'adulte, tu poses la question dont tu connais déjà la réponse. L'enfant, il a besoin de 5, 6, 7, 15 secondes pour répondre peut-être. Et nous, on l'accélère, on les stresse. Donc on en fait encore une fois des brutaux qui veulent répondre vite pour avoir bon, pour être aimé, les premiers de la classe. Ou on en fait dès qu'ils se diront, ben moi je suis pas assez rapide et qui se pensent bêtes alors qu'ils avaient la réponse. Au niveau des solutions, ben quoi faire ? Devenons adultes, travaillons sur nous. Surveille les mots qui sortent de ta bouche en présence de tes enfants. Comment tu parles des autres? Est-ce que j'ai envie, vu qu'on est sur une radio communautaire avec cette relation à une religion, est-ce que, et c'est valable pour toutes les religions, peut-être tu parles à voix basse quand tu rentres à la mosquée, à la synagogue ou à l'église, mais comment tu parles quand tu rentres à la maison? Peut-être que t'as beaucoup de dévotion pour cet imam, ce pasteur, ce prêtre, ce rabbin que tu ne connais pas. Mais comment tu parles à ton fils, à ton frère, à ton cousin, ou même à ton père ou à ta mère? Donc, ta religion, c'est comment tu es tous les jours. Donc ça peut être très important de ralentir. Aime-moi quand je suis mauvais, c'est là que j'en ai le plus besoin. Quand on était petit, qu'on ramenait une mauvaise note, une punition, on prenait la deuxième couche. La première chose que vous pouvez faire, c'est mettre de la tendresse. Je suis pas d'accord avec ce que t'as fait, mais je vais t'aimer avec ça. Je vais essayer d'être calme, je vais pas te punir. Je vais t'éduquer, on va voir de quoi tu as besoin pour aller mieux. Apprenez le calme avec les enfants, faites de la respiration connectée, stoppez tous ces jeux vidéo, stoppez le sucre, faites-vous aider par un professionnel, et la chose la plus importante, gardez le dialogue.
Un grand merci Aurélien Duarte, voilà, pour ces mots vraiment que ça a pu servir. Justement, ouais, on peut le retrouver, Aurélien Duarte, sur les réseaux sociaux, parce qu'on avait Nadir, Malik, qui aimerait avoir des réponses à leurs questions.
Ouais,
justement,
sur les réseaux sociaux,
ouais, sur les réseaux sociaux, on va le voir, Aurélien. C'est
et en
premier
stage à Montpellier ce samedi, je suis en stage, les gars de Montpellier, venez
aussi,
voir.
Ça aussi, pronostic Manchester Real, rapidement, Karim.
2-0 pour Manchester City. 4-3 Real.
4-3, et toi, Jouba?
Un but partout.
Solal peut-être. Allez, c'est bon, terminant. T'as dit juste le pronostic. Ah ben voilà, on n'aura pas le petit clin d'œil de Solal ce soir. Ah ben on aura aussi le clin d'œil de Vanessa qui arrive 21h, 23h et on se donne rendez-vous dès demain.
Retrouvez Timesport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.